Radio Cause Commune, 93.1. Travail à cœur, Marilyn Gomez.
Bonjour à tous et bienvenue. Comment la crise du coronavirus est-elle gérée dans d'autres pays d'Europe? C'est le thème de notre émission d'aujourd'hui. Le coronavirus a des effets au niveau mondial. Chaque pays met en œuvre des méthodes et des solutions similaires et différentes à la fois. Et parce qu'il est intéressant de comprendre ce que font nos voisins européens, les invités de cette émission résident en Belgique, en Italie et au Portugal. Pour répondre à nos questions, j'ai le plaisir de recevoir Eric Battistoni, formateur à la médiation en Belgique et ancien magistrat, Sandra Audibert, directrice commerciale pour un grand groupe de voyage en Italie, Jonathan Machado, entrepreneur et tatoueur au Portugal, et notre expert Jean-Claude Delgen, président fondateur du groupe Technologia, cabinet spécialisé dans la prévention des risques psychosociaux et des risques professionnels. Avant de passer la parole à nos invités, Jean-Claude Delgen, est-ce qu'il devrait y avoir une réponse européenne dans la manière de résoudre cette crise, ou est-ce que la solution dans ce genre de situation qui affecte tant de pays doit rester à un niveau national ?
Bonjour à tous, bonjour Marilyn, bonjour aux invités. Je pense qu'effectivement, on aurait pu espérer une réponse beaucoup plus coordonnée au niveau européen, avec une véritable homogénéité des réponses, avec un véritable partage de la part des différents pays, car on voit bien qu'on est tous dans la même galère au niveau du coronavirus et qu'il aurait été très utile de pouvoir bénéficier. Pays, on va le voir, ne sont pas rentrés dans cette épreuve avec égalité. Certains étaient mieux équipés, en particulier l'Allemagne. Mais c'est vrai que de toute façon, il faudra bien en sortir et en tirer les enseignements. Ce qui est réjouissant malgré tout, c'est que au niveau économique, le conglomérat Europe réussit malgré tout à faire face et à dégager des sommes vertigineuses que l'on nous disait qu'il n'était pas possible de mobiliser par ailleurs pour faire en sorte de soutenir l'activité. Car il y a bien sûr, comme chacun le voit, la crise sanitaire, mais il y a toutes les conséquences qui vont survenir très prochainement, qui commencent à survenir, en particulier dans les pays qui sont vraiment très touchés sur le plan économique et social. Ainsi, par exemple, en France, le taux de mortalité des entreprises a doublé au mois de mars et on s'attend au mois d'avril, au mai et juin à des milliers et des milliers de licenciements. Donc il est bien que l'Europe, qui a quand même une grande solidité, puisse créer de la monnaie comme elle a décidé de le faire pour pouvoir soutenir cette activité.
Eric Battistoni, vous êtes formateur à la médiation et ancien magistrat. Vous résidez aujourd'hui en Belgique. Comment est-ce que la Belgique vit-elle la crise du coronavirus ?
Bonjour. Alors, de mon côté, je suis un observateur. Je précise que je ne suis ni médecin ni politicien. Comme juriste, j'observe plutôt les mesures réglementaires qui sont prises. Mais sur le plan de la situation, il y a une forte angoisse dans la population. Mais je vais dire, en contrepartie, il y a aussi un fort soutien à l'action politique de la Première ministre. Ce sont des circonstances politiques assez particulières en Belgique. On était en crise de gouvernement et on a un gouvernement coronavirus, c'est ainsi que les journalistes l'appellent, parce qu'il a fallu se souder. Et donc, la situation qui est vécue en Belgique est à la fois surréaliste, comme souvent chez nous, puisque voilà un gouvernement qui n'a pas de légitimité au sens des urnes, mais qui a une action de plein pouvoir. On lui a donné des pouvoirs spéciaux et toute une série de mesures ont été prises qui sont assez efficaces, qui ont un soutien moral de la population. En face de ça, l'autre versant du paradoxe, c'est qu'on est l'un des plus mauvais élèves européens, puisqu'on a passé hier le cap des 4200 décès. Vous multipliez par 6 pour avoir une idée comparative sur la population française, mais on en a plus que vous. 4200 décès, c'est beaucoup.
Vous parliez qu'il y a eu un soutien moral aux citoyens. De quel genre de soutien ? Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ?
Alors, c'est la situation en Belgique sur le plan politique. On a on sort des urnes depuis 7-8 mois. Il n'y en a pas de gouvernement. C'est la deuxième fois que ça se produit. La première fois, ça avait duré plus de 560 jours. Donc, ça vous donne une idée de la difficulté à composer un gouvernement pour une raison qui est simple. Politiquement, nous avons des nationalistes qui représentent sur 2/3 de la population à peu près la moitié des votes, ce qui aboutit à dire qu'ils veulent démontrer que la Belgique ne peut pas fonctionner comme État fédéral, qu'il faut le scinder, qu'il faut un confédéralisme. Et donc, on est bloqué sur l'évolution des projets politiques à cause de cela, à la fois sur la coalition gouvernementale et à la fois sur les mesures qui doivent être prises. Et il se fait que c'est quelqu'un qui ne voulait pas du pouvoir, Madame Wilmès, qui est devenue la première ministre, un peu contrainte et forcée, avec comme résultat qu'on a à la tête du pays quelqu'un qui ne voulait pas du pouvoir et quelqu'un qui est donc très soutenu par la population parce qu'elle est empathique et parce qu'elle essaye de bien faire ce que personne ne lui conteste.
Et quels ont été un peu... Est-ce que vous pourriez peut-être nous parler un peu des mesures qui ont été prises pour soutenir les entreprises? Est-ce qu'il y a eu des méthodes, enfin, des actions de chômage d'activité partielle ou de chômage partiel?
Alors oui, on a eu deux vagues de mesures qui ont été prises par ce nouveau gouvernement coronavirus. On a des mesures prises fin mars, le 24 mars. Il y en a eu 6 qui ont été suivies par une deuxième vague le 11 avril, donc très récemment, où 10 mesures complémentaires sont venues. Je vais regarder les mesures les plus intéressantes pour faire un comparatif. Par exemple, tout ce qui est télétravail, comme chez vous, je pense, a été favorisé et les entreprises qui ne pouvaient pas le faire, sauf secteurs cruciaux, services essentiels, ont été fermés. Les commerces alimentaires, pharmacies, magasins d'alimentation et librairies peuvent rester ouverts. Très curieusement, les coiffeurs ont eu un moratoire pour que les gens puissent se faire couper les cheveux jusque fin du mois de mars.
Bon, moi, ils ont de la chance.
Mais depuis lors, c'est fermé. Les transports en commun, 5 personnes par autobus, 15 personnes par tram. Donc, on est limité. Les voyages sont interdits hors de la Belgique et les marchés de plein air sont fermés. C'est le premier train de mesures. Quand vous parlez des chômeurs, on se retrouve là dans un deuxième train de mesures. Il y a eu, depuis le 11 avril, un moratoire sur les faillites d'entreprises. Il y a une défiscalisation complète des heures supplémentaires, volontaires. Il y a, pour des travailleurs en chômage temporaire, parce que leur entreprise a fermé, possibilité de travailler dans l'horticulture, dans le forestier, dans tout ce qui est le saisonnier, si vous voulez. Et leur salaire peut être 75% de l'allocation de chômage, plus le salaire normal dans le travail effectué. Donc tout ça est intéressant, ce sont des stimulants. Les horaires flottants, le travail occasionnel, la mise à disposition des travailleurs, tout ça a été libéré. Les mécanismes de protection des travailleurs sont suspendus. On a neutralisé les heures de travail prestées par un étudiant qui était plafonné pour ne pas perdre ses allocations familiales. Tout ça est déplafonné. On peut, quand on est demandeur d'asile ayant introduit une demande, revenir sur le marché du travail tout à fait librement. Les allocations de chômage qui sont dégressives par période, il n'y a plus de dégressivité, c'est gelé temporairement. Et les indépendants qui ont un problème de travail, surtout les complémentaires, ont un droit passerelle aux allocations de chômage. Ça, ce sont les premières mesures qui sont prises au niveau gouvernemental. On a des mesures fiscales puisque il y a des plans de paiement pour les impôts, des exonérations des intérêts de retard, pas d'amende pour le non-paiement temporaire. Et en Wallonie, donc la partie de la Belgique où on parle le français, il y a une prime de 5 000 euros pour les petits indépendants qui sont fortement touchés, puisque par exemple l'Oreca doit fermer. Et donc il y a une demande avec une prime unique forfaitaire de 5 000 euros qui sera payé par la région wallonne. Voilà un peu le cadre de ce qu'il y a comme mesures qui sont prises chez nous.
Et pouvez-vous juste nous dire un mot sur l'état d'esprit général ?
Et 4200 décès, c'est impressionnant. On n'a pas l'habitude de chiffres comme ceux-là. Donc il y a une angoisse dans la population, ça c'est clair. Deux tiers de ces décès ont été enregistrés dans ce qu'on appelle les MRPA, maisons de repos pour personnes âgées. C'est l'équivalent de vos EHPAD. On va, dans ce qui est annoncé maintenant, venir à faire des tests. On en a actuellement 2000 par jour de tests. Vous voyez, quand on fait des frottis dans la gorge ou dans le nez, on en a 2000 par jour. On va passer à partir de la semaine prochaine à 10 000 par jour. Ce sont des possibilités qui vont se coupler avec d'autres types de tests où on va pouvoir, dans 15 jours, 3 semaines, mesurer une large partie de la population. On nous a annoncé ce sont les maisons de repos pour personnes âgées qui seront le premier objectif de ces tests. C'est là qu'on veut dépister ceux qui ont à risque, ceux qui sont à risque dans le personnel ou dans les résidents.
Merci Eric Battistoni pour votre participation. Je vous laisse à présent avec une pause musicale.
Cause commune, cause-commune.fm
93.1.
Russet brandy in a diamond glass. Everything is made from dreams. Time is made from honey slow and sweet. Only the fools know what it means. Temptation. Temptation, temptation. I can't resist. Well, I know that he is made of smoke, but I've lost my way. He knows that I am broke, but I must pay. Temptation, I can't resist. Temptation.
Vous venez d'écouter Temptation de Diana Krall. Vous êtes sur Radio Cause Commune 93.1, émission Travail à cœur. Comment la crise du coronavirus est-elle gérée dans d'autres pays d'Europe? C'est le thème de notre émission d'aujourd'hui. Avec nous en ligne, nous avons Sandra Audibert. Vous êtes directrice commerciale pour un grand groupe de voyages. Vous résidez à Turin et vous prêtez aussi votre voix à de nombreux podcasts. Bonjour Sandra.
Bonjour à tutti, bonjour Marilyn et merci de me recevoir aujourd'hui.
L'Italie a été le premier pays le plus touché en Europe. Pouvez-vous nous raconter quelles ont été les étapes et comment vivez-vous cette situation aujourd'hui ?
Eh bien, effectivement, comme vous l'avez dit, nous sommes en première ligne avec les premières contagions et décès déclarés à Milan, 60 d'entre eux le 22 février. Je dois dire que cette première étape, si on veut la résumer avec deux mots-clés, je dirais que c'est l'incrédulité et la confusion. Parce qu'on a été le premier pays quand même au niveau européen. Nous n'avions pas d'historique, bien sûr, de la Chine, mais c'était quand même assez loin et c'était assez confus. Il y avait un manque général d'informations et de connaissances du virus. Et c'est un petit peu le premier état d'esprit dans lequel nous nous sommes retrouvés. Mais très vite, l'État italien a pris des décisions de très forte responsabilité, je dois le dire, et a fait une déclaration de ce qu'on appelle la zona rossa, de zone rouge, d'abord dans le nord de l'Italie, province de Lombardie et de Vénétie, et puis tout de suite après pour toute l'Italie. Qu'est-ce que ça veut dire cette zona rossa pour nous ? Eh bien, on a été les premiers à le faire. Ensuite, tous les autres pays ont un petit peu suivi. Et je pense que c'est la créativité, la réactivité de l'État italien qui a tout de même beaucoup aidé à contenir la contagion dans le nord du pays. Nous avons eu donc des fermetures d'écoles, de commerces, une réduction des transports, une auto-certification pour se déplacer. Pour les nécessités primaires et bien sûr des contrôles, beaucoup de contrôles de la part des forces de l'ordre avec des amendes pénales et ensuite des amendes civiles pour éviter et pour que la population se rende vraiment compte de la gravité, ce qui était difficile bien sûr dans les premiers temps à accepter. Nous avons ensuite dans un deuxième temps eu des mesures économiques importantes de délation des impôts, de chômage dans tous les pays. L'Italie fait vraiment face. Aujourd'hui, nous comptons 15 000 décès et 150 000 personnes ont été identifiées comme positives au virus. Nous sommes confinés pour l'instant jusqu'au 3 mai avec sûrement des mesures à venir on va ouvrir certains commerces cette semaine. Là, certains commerces ont pu ouvrir de première nécessité de nouveau, outre l'alimentaire qui a toujours été en place. Voilà un petit peu la situation en quelques chiffres. Pour finir, nous parlions de la différence entre les pays, notamment dans votre introduction. Et c'est vrai que l'Italie, ayant seulement 5000 lits dans toute l'Italie en termes d'assistance respiratoire de pronto soccorso, donc d'urgence, par rapport à des pays comme l'Allemagne qui en ont 5 fois plus, eh bien vous pouvez comprendre combien l'urgence est difficile chez nous.
Et est-ce que vous avez adopté aussi le télétravail comme méthode pour maintenir l'activité économique ?
Absolument. C'est des mesures également que nous avons mis en place très rapidement dans toutes les entreprises qui peuvent le faire. D'autres, bien sûr, sont en chômage technique total quand on parle de production et d'industrie.
Et vous avez été les premiers à vivre cette situation, vous avez une identité italienne très forte. Est-ce qu'il y a eu des mouvements de solidarité qui vous ont marqué ?
Ben écoutez, Marilyn, c'est vrai, moi je suis franco-italienne, vous le savez, et je sens beaucoup l'identité française qui est liée à une histoire, une longue histoire de l'État français. La Constitution italienne, par contre, fêtera seulement 160 ans l'année prochaine. Et c'est vrai que l'identité, eh bien, nous l'avons ressenti beaucoup, ce sens d'appartenance à une nation, notamment au début où on était les seuls qui étaient touchés. Et je vous assure que la première semaine, quand on a eu l'hymne national à la télévision et que tous les Italiens sont sortis sur leur terrasse pour chanter l'hymne et pour remercier et soutenir le personnel médical, eh bien, ça m'a vraiment fait quelque chose et moi-même, j'ai chanté l'hymne italien.
Et au-delà des mesures matérielles qui ont été prises, est-ce qu'il y a d'autres dimensions que vous aimeriez partager sur la vision de votre pays, des choses qui vous ont peut-être surpris, ému ?
Mais écoutez, il y en a deux. La première, c'est une solidarité très forte, une solidarité du monde économique, puisqu'on parle ici de travail et de monde économique, des donations des grandes familles italiennes pour aider les hôpitaux, parce que nos structures sont parfois un peu défaillantes, notamment dans le sud du pays. Des industries qui ont mis à disposition leurs unités productives pour aider les forces sanitaires. Je pense à Armani, qu'on connaît tous pour ses défilés, eh bien, il a commencé à faire des chemises mono-usage pour les hôpitaux. L'industrie automobile a commencé à construire des casques en plexiglas pour aider également dans les hôpitaux. Donc une grande solidarité, c'est le premier point. Et puis le deuxième point qui est quand même très particulier, très lié à l'Italie. En Italie, dans notre péninsule, nous accueillons l'État du Vatican. Donc l'Italie a un lien très privilégié avec la religion catholique. Et c'est vrai qu'on regarde toujours du coin de l'œil le dimanche la messe, le Papa Francesco sur la place, c'est toujours comble de touristes, de fidèles. Eh bien, je vous assure que c'était très émouvant de le voir seul sur la place Saint-Pierre, notamment pour ses fêtes de Pâques, avec la Via Crucis et un grand message de solidarité et un message vraiment sur les valeurs fondamentales de la personne, de l'humanité et de la société. Voilà, c'est ces deux points peut-être un peu particuliers que je voulais partager avec vous.
Et vous parliez par rapport aux aides, surtout au soutien qu'il y a eu aux soignants. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez du matériel de protection suffisant ? Est-ce que les mesures sont suffisantes par rapport aux besoins de protection ?
Mais écoutez, moi je ne suis pas médecin, je ne suis pas spécialiste bien sûr du corps médical et je dirais que nous mettons tous les efforts de notre côté pour faire face. Mais vous comprendrez bien sûr que dans un pays qui est le deuxième le plus touché après la Chine, avec plus de 15 000 décès, 150 000 personnes qui sont malades, on a tout mis en place pour aider, mais est-ce suffisant ? Je pense que ça ne sera jamais suffisant. On aimerait bien sûr pouvoir accueillir tout le monde à l'hôpital, ce n'est pas le cas. Il y a des gens qui font des thérapies chez eux, bien sûr. Mon sentiment, c'est celui du best effort, comme on dit en anglais. On fait tout le possible et l'impossible. Est-ce que c'est suffisant ? Eh bien, je pense que c'est le temps qui nous le dira.
Merci Sandra Audibert pour votre participation. Et à présent, une pause musicale.
Grazie.
Cause commune, cause-commune.fm
93.1.
Que mostraves caminho longe, que mostraves caminho longe, esse caminho passou também. Que mostraves caminho longe, que mostraves caminho longe, esse caminho passou também. Saudade, saudade, diz minha terra, San Nicolau. Saudade, 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 diz minha terra, San Nicolau. Esse caminho passando bem. Quem mostrava esse caminho longe? Quem mostrava esse caminho longe? Esse caminho passando bem. Saudade, 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 diz minha terra, San Nicolau. Saudade. Saudade, saudade, diz minha terra, San Nicolau. Se vou escrever, muito a escrever, se vou esquecer, muito a esquecer, até dia que vou voltar. Si vos escrever, muito a escrever. Si vos esquecer, muito a esquecer. Até dia que vou voltar. Saudade, saudade, saudade desse minha terra, São Nicolau.
Écoutez Saudade de Cesaria Evora. Vous êtes sur Radio Cause Commune 93.1, émission Travail à cœur. L'invité de cette troisième partie de notre émission dédiée au thème « Comment la crise du coronavirus est-elle gérée dans d'autres pays d'Europe ?» est le connu tatoueur et entrepreneur Jonathan Machado, basé à Porto. Des personnes du monde entier viennent se faire tatouer chez lui. Comment vivez-vous ce moment au Portugal? Est-ce que le pays il est aussi confiné?
Bonjour à tous, bonjour Marilyn. En effet, les Portugais se sont excessivement confinés puisque, en fait, à partir du 10, il y a eu un premier cas, pour le coup, dans ma ville, parce que je voulais quand même rappeler, j'ai écouté un petit peu les différents intervenants, le Portugal est très lié à l'Italie par l'industrie. Le Portugal et l'Italie étant deux pays très industrialisés. Nous produisons des chaussures et la Lombardie et la Vénétie produisent du cuir. Donc, en fait, il y a eu un premier contaminé arrivé à l'hôpital de Ferra, à 30 km au sud de Porto, qui revenait d'Italie pour un salon professionnel et qui avait été donc contaminé en Italie. Ceci le 10 mars. Naturellement, les Portugais, en voyant la situation italienne, se sont auto-confinés. Et la déclaration du confinement par l'État portugais a été faite au 20 mars. Ce qui a changé un petit peu la nature du confinement et l'attitude des autorités face à la population.
Ça a changé en quel sens ?
Ça a changé dans le sens où, bien évidemment, comme ils n'avaient pas forcé le peuple à se confiner, eh bien, ils ont eu moins la sensation, la sensation du devoir d'aider. Aujourd'hui, les aides du Portugal sont très faibles. Grosso modo, socialement, il y a toujours, bien évidemment, le paiement, les aides pour les chômeurs, etc. Tout ça, ça a continué, bien évidemment, tout à fait normalement. Mais globalement, le Portugal a mis en place principalement des aides liées sous forme de crédit. C'est-à-dire qu'en gros, on dit aux petites entreprises, endettez-vous plus et nous verrons ce qu'il se passera. Voilà, grosso modo. Donc, il y a tout un tas de possibilités de crédit pour payer les loyers, pour payer toutes les charges que peut avoir une structure. Et ils pensent que c'est suffisant puisqu'ils ont été conseillés des finances publiques et des banques portugaises qui leur dit que de toute façon, les micro, petites et moyennes entreprises, il n'y aurait que 7% qui fermeraient suite au coronavirus. Donc, ils n'ont pas la sensation d'avoir besoin de faire plus.
Justement, parlant d'aide financière aux entreprises, en France, elles sont en fonction du chiffre d'affaires. Et au Portugal, est-ce qu'il y en a eu quand même quelques mesures plus précises d'aide en ce sens ?
Alors, il y a eu... leur objectif principal était de conserver le tissu industriel, finalement, et les grosses entreprises, grosses et moyennes entreprises, en faisant un système de chômage partiel. Déjà là, vous verrez donc un petit peu la différence qu'il peut y avoir avec la France. Le système de chômage partiel au Portugal est payé seulement à un tiers de l'État. Les deux tiers étant complètement à la charge de l'employeur. L'employeur qui s'est a dû fermer complètement. Et quand il n'a pas été obligé de fermer complètement, de toute façon, ne peut plus vendre ses productions. C'est-à-dire qu'on parle de produire. Oui, bien évidemment, les usines auraient pu continuer à produire. Leur problème, c'est de ne pas pouvoir livrer. S'ils ne livrent pas, ils ne facturent pas. S'ils ne facturent pas, ils n'encaissent pas. Et donc, bien évidemment, on se retrouve rapidement avec des problèmes de trésorerie.
Il y a aussi une notion de santé, presque d'un acte médical dans votre activité. Quelles mesures d'hygiène prenez-vous ou allez-vous prendre pour vous protéger, pour protéger vos clients ?
Alors, dans mon métier, j'utilise à peu près les mêmes produits qui peuvent être utilisés en bloc opératoire pour désinfecter toute l'intégralité des surfaces, les machines, etc. Il y a exactement le même principe des préventions sur la manière de se nettoyer les mains, sur le fait de se couvrir le visage pour tatouer. Donc, c'est-à-dire que depuis toujours, les tatoueurs ont l'habitude de traiter un petit peu ce problème, on va dire, de santé. Bien évidemment, le problème, c'est qu'on est une toute petite catégorie de la société professionnelle. Donc, bien évidemment, on a été englobé dans des attitudes générales sans regarder spécifiquement au cas par cas. C'est-à-dire que je pense que nous aurions pu continuer à travailler en demandant simplement à nos clients qui viennent un par un, finalement, tout au long de la journée, en les obligeant finalement à se couvrir la bouche pour pas que nous-mêmes nous soyons contaminés. Et ça aurait été, et ça n'aurait en fait finalement rien changé à notre activité, ça nous aurait garanti de nous protéger. Mais on n'en est pas là, c'est-à-dire qu'il faut se rendre compte qu'au Portugal, le Premier ministre Antonio Costa est le seul qui est aujourd'hui est de front intégralement face au coronavirus, qui négocie avec l'Europe, puisque en fait notre ministre des finances publiques a disparu depuis quelques temps. Il était, depuis quelques mois avant la pandémie, était en train de négocier sa sortie du gouvernement pour pouvoir aller s'occuper de la Banque nationale du Portugal. Et que donc le gouvernement, pour l'instant, a refusé ce droit. Et donc, il s'est tout simplement confiné et a disparu.
Donc, vie du Portugal,
on est dans une situation un peu particulière.
Et vu du Portugal, comment voyez-vous le rôle de la France dans la gestion de cette crise ?
Justement, nous en avions un petit peu discuté. Le Portugal, c'est 10 millions d'habitants, 10 millions 200 000. Le Portugal n'inventera pas le vaccin ni le remède. Et bien évidemment, le Portugal, ayant quelques experts, a quand même une culture depuis toujours de suivre un petit peu ce que font les voisins. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire, c'est-à-dire que finalement, ils n'ont pas la capacité de prévoir l'avenir et ils essayent un petit peu de récupérer les mesures qui leur semblent bonnes des différents pays. Donc l'Autriche a voulu déconfiner les écoles et le Portugal pense faire la même chose. Mais voilà, c'est un petit peu, ils réagissent un petit peu à ce qu'ils veulent, à l'actualité européenne et à ce qui se passe dans les autres pays.
Jonathan, est-ce qu'il y a eu une suspension des droits des travailleurs et des libertés au Portugal, comme on a pu constater, par exemple, comme ça a été dit tout à l'heure, pour la Belgique ?
Alors, il y a eu des mesures, une mesure qui s'appelle la calamité publique, c'est-à-dire que quand ils avaient identifié un foyer important de contamination, en fait, ces zones-là ont été totalement fermées par les gendarmes portugais, les GNR. Aujourd'hui, c'est des blocs de béton sur les nationales et sur les autoroutes, sur les accès à ces zones-là, et elles sont en permanence surveillées. Il est impossible de rentrer ou de sortir. Si ce n'est les chauffeurs-livreurs qui viennent ramener des denrées alimentaires. Principalement, il y a aujourd'hui un maillage global du Portugal fait par la police et par la gendarmerie. Bien évidemment, au Portugal, on n'a pas encore mis cette logique des attestations pour la circulation. Il n'empêche qu'aujourd'hui, les entreprises par elles-mêmes, quand elles ont un travailleur qui doit circuler, qui doit livrer, eh bien, cet employeur circule avec des attestations pour faciliter en fait le passage des barrages policiers puisqu'il y a bien évidemment un système d'amende, hein, comme en France, pour les gens qui se déplaceraient sans raison valable.
Et sur le résultat de la stratégie globale, nous, ce que l'on voit à partir de la France, c'est que malgré tout, le Portugal s'en sort vraiment très bien. Il y a quand même très peu de morts. Il y a
c'est ça, 539.
Voilà. Par rapport à, par exemple, la Belgique, qui est un peu plus petite et qui a 4000, parce que nous disait tout à l'heure Eric Battistoni, qui a plus de 4200 morts, on peut considérer que la stratégie, peut-être d'ailleurs initiée directement par le peuple portugais en sa sagesse, a permis d'éviter une catastrophe.
Je pense, mais bien évidemment, on va avoir un autre problème. C'est que, bien évidemment, ici au Portugal, avec si peu de mesures, si peu d'argent donné, puisqu'il n'est que prêté, tout le monde pousse pour recommencer rapidement à travailler. Il y avait des données qui annonçaient que la France aurait un taux de contamination à peu près à hauteur de 10%. Il faut imaginer que si le Portugal, dans ce cas, a 1% de contaminés, donc c'est-à-dire qu'il n'y aura pas cette protection barrière. Si demain, d'accord, tout se met à réouvrir de manière agressive, il va y avoir un drame ici au Portugal, c'est une certitude.
D'accord, très bien vu. Ouais. Et sur, je dirais, les écoles, etc., les gens, les enfants ne vont pas à l'école, ils restent donc à la maison, tout est en fait... confiné. Il y a eu une mesure décrétée. Alors j'ai compris qu'effectivement le peuple s'était pris en main, c'est très bien, mais est-ce qu'il y a eu après coup un confinement décrété par l'État ?
Je trouve que justement, en parlant de l'école, c'est peut-être la chose qui fonctionne le mieux ici au Portugal. C'est-à-dire qu'ils avaient déjà l'habitude un petit peu, entre guillemets, de ces échanges presque de télétravail pour les élèves. Donc, rapidement, la population s'est mise à faire des visioconférences de classe avec les profs qui ont pris le relais. Et apparemment, ça se passe très, très bien. Ils ont l'intention, bien évidemment, de faire en sorte que tous les élèves qui avaient des diplômes à passer puissent les passer. Et avec la possibilité, si les établissements le permettent et garantissent la sécurité sanitaire, que les matières principales, celles qui seront donc passées en examen, imaginons par exemple pour un bac français, eh bien, ça serait le cas du français, pour les premières par exemple, eh bien, ils vont essayer de mettre en place la possibilité de refaire des cours au sein des écoles pour les matières et pour les matières passées en examen et pour ceux qui ont des examens à passer en fin d'année. Pour pas que ça soit une année blanche pour les élèves de ces classes-là.
D'accord.
Merci Jonathan pour votre participation.
Jonathan. À bientôt.
Mais de rien, c'était avec plaisir. Je vous souhaite une bonne journée.
À bientôt, on reste en contact. Au revoir.
À bientôt, au revoir.
Je remercie à tous nos invités pour leur participation. Dans notre prochaine émission, nous allons continuer notre périple européen et nous aurons des invités de Grande-Bretagne, d'Allemagne et de la Suisse pour partager avec nous leur regard sur le sujet. Pour ma part, je vous donne rendez-vous jeudi prochain pour une nouvelle émission de Travail à cœur pour être au cœur du travail et des solutions. Merci pour votre écoute.
Radio Cause Commune, 93.1. Travail à cœur, Marilyn Gomez.